Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Le nouveau OBS, tel est le sujet de cette émission ce soir. Le nouvel OBS, c'est fini. Voici l'OBS nouveau. Depuis 2014, l'OBS cherche à se réinventer. Il a rétréci son nom, mais aussi son audience. Il a changé plusieurs fois de directeur, mais tente de rester fidèle à son ADN. Quel est-il justement cet ADN à une époque où la gauche elle-même se cherche ? L'OBS est-il le beau miroir ou le mauvais reflet de cette gauche en recomposition? Pour parler de ces sujets, mais aussi de l'avenir de la presse magazine, du groupe Le Monde auquel appartient l'OBS et de son mystérieux nouvel actionnaire tchèque, pour parler de la montée en puissance des fake news et de la disparition des kiosques à journaux dans les rues, je reçois ce soir en direct et en invité unique Dominique Nora, la nouvelle directrice de l'OBS. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous serez interrogé ce soir par Emmanuel Paquette, journaliste économie, médias et numériques du magazine concurrent à l'OBS, L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Faudra être fair play.
Bah évidemment.
Et par Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis, en seconde partie d'émission, à 20h, votre invité innovation ce soir, Zoé Sfès.
C'est Pierre-Marc de Biasi, qui est chercheur au CNRS et qui a publié en septembre le troisième cerveau, petite phénoménologie du smartphone. Un livre qui tente, qui compulse un certain nombre d'études sur le rapport que nous entretenons à nos smartphones et ce rapport presque de dépendance.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de Fortnite. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est pas grave. Je ne le savais pas moi-même il y a quelques semaines. C'est un jeu vidéo qui séduit des millions de gamers. C'est gratuit. Interrogez vos enfants ou vos petits-enfants. Ils connaissent Fortnite. Et nous décrypterons le succès du jeu vidéo qui permet également de comprendre certaines évolutions des jeux vidéo en général et ses nouveaux et leurs nouveaux modèles économiques. Et nous serons pour en parler avec Nicolas Prinsen, ancien conseiller numérique de Nicolas Sarkozy, fondateur de la start-up Gloze, et donc Emmanuel Paquette de L'Express. Voilà pour le sommaire de cette émission ce soir, émission réalisée par Djenab Sangaré, avec en régie Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée cette émission par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot, car vous pouvez également, comme chaque semaine, suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Je commence cette émission par un petit coup de griffe à propos du film Silvio et les autres de Paolo Sorrentino. Silvio, un grand film politique ou une farce ratée, titre cette semaine Télérama. Vous aurez compris que je penche plutôt pour la farce et même pour le fiasco. Pourtant, on adore ici à Soft Power Paolo Sorrentino, le réalisateur italien de génie, notamment de The Young Pop. Dans Silvio, qui vient de sortir dans les salles, Sorrentino filme les années Bunga Bunga de Berlusconi, président du conseil Vautré, dans le luxe et la luxure, et qui, grâce à ses chaînes de télévision, préparait déjà le terrain, on ne le savait pas encore à l'époque, pour le fascisme de Matteo Salvini. Le film, pourtant, bien que magnifiquement esthétisant, ne fonctionne guère. Filmer la vulgarité, pourquoi pas, mais la fétichiser, c'est plus compliqué. Avec un art un peu vintage de la Dolce Vita, Sorrentino ennuie. Il est confus, il se répète tout en longueur, il s'aime et se regarde trop filmé pour nous séduire et perd ses spectateurs en chemin, qui étaient peu nombreux, il faut dire, mercredi pour la sortie, 354 seulement entrées pour 10 copies. C'est loin derrière Bohemian Rhapsody, le biopic consacré à Freddie Mercury du groupe Queen, qui a très bien démarré lui, mercredi avec 2652 entrées pour 28 copies. Et puis pour finir, un mot sur Girl, le portrait d'une adolescente transgenre, qui tient bien dans le box-office en quatrième semaine d'exploitation. Girl est signé par le jeune réalisateur belge Lucas Dont. Le film est dérangeant, très dérangeant, original, inédit sur la question transgenre. Il met mal à l'aise, mais on vous le recommande en tout cas aux âmes peu sensibles. Verdict au final, les deux pouces en l'air pour Girl, un pouce en haut, un pouce en bas pour Bohemian Rhapsody et les deux pouces en bas pour Silvio et les autres. L'actualité comme chaque semaine, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias au début de cette émission avec nos chroniqueurs Emmanuel Paquet de L'Express et Zoé Sfès de France Culture et notre invitée ce soir, Dominique Nora, directrice de l'Obs. Pour commencer, Zoé Sfès.
Eh bien, on va parler des chiffres, des chutes de la New York Times Company qui ont été annoncées cette semaine. Très très bon chiffre pour la maison mère du quotidien américain qui annonce qu'il a passé le cap au cours du troisième trimestre de 2018 des 4 millions d'abonnés. Et sur 4 millions d'abonnés, il y en a 3 millions qui sont des abonnés digitaux. C'est disons un très très beau résultat. Il y a eu plus de 200 000 nouveaux abonnés entre juillet et septembre cet été pour le New York Times. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur ces abonnés, il y en a disons un petit cinquième qui sont abonnés à des offres thématiques. Donc pas à l'intégralité de l'offre du New York Times, à des offres sur la cuisine, sur les mots croisés. Donc il y a disons une forme d'usage.
On s'abonne juste pour les mots croisés.
Bah écoutez, moi je serais prête à le faire pour ce Libération.
Avec aussi la cuisine.
Avec aussi la cuisine. Mais pas que. Ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que les revenus que le New York Times tire de ses abonnements digitaux, de ses offres digitaux, eh bien, ont bondi 18% sur un an. Et le journal annonce, eh bien, qu'il ambitionne de générer chaque année 800 millions de dollars de chiffre d'affaires numérique, entièrement numérique, d'ici à 2020. Donc, c'est plutôt des bons chiffres. Des chiffres qui sont nettement meilleurs, mais on peut faire quand même un petit comparatif avec d'autres publications importantes, type le Washington Post ou le Financial Times. Le Washington Post qui lui avait annoncé en janvier, donc on a peu de chiffres depuis, eh bien qu'il avait de son côté doublé ses abonnés en janvier 2018 par rapport à janvier 2017 et triplé par rapport à 2016. Ce, on le rappelle quand même, depuis qu'il a été repris en main par Jeff Bezos, par une capacité à développer des capacités technologiques, notamment tout un travail sur le développement de la vitesse de téléchargement des contenus en ligne. Il y a carrément, disons, vraiment une méthode du Washington Post qui aujourd'hui d'ailleurs se vend à plusieurs sites
Jeff
américains.
Jeff Bezos, patron d'Amazon, mais il le fait à titre personnel, ce rachat du Washington Post.
C'est ce qu'on appelle vulgairement sa danseuse, mais il ne le fait pas en tout cas par le biais ni de son entreprise, ni d'une quelconque fondation. Et du côté du Financial Times, autre grande publication de la presse anglo-saxonne, le Financial Times espère de son côté dépasser le million d'abonnés en 2018 contre 912 000, ça c'était fin 2017. Entre temps, rappelez-vous, il y a eu cette affaire assez étrange où le nouveau patron du Financial Times avait augmenté considérablement son salaire parce qu'il avait réussi à faire revenir les chiffres dans le vert et il avait été salaire retoqué ensuite par ses salariés. Voilà, petit tour d'horizon de la manière dont les grands titres de la presse anglo-saxonne vont en ce moment. Constat plutôt positif pour ceux qui ont réussi cette transition numérique.
Et pour ces grands titres, c'est plus compliqué lorsqu'on s'appelle le Boston Globe ou le Los Angeles Times ou le San Francisco Chronicle, c'est-à-dire des journaux de région, même s'ils ont parfois une audience américaine, mais pas forcément internationale. Dominique Nora, vous êtes directrice de l'Obs, c'est notre invitée.
Alors, de la rédaction de l'Obs, je vais préciser directrice, quand même, parce qu'il y a un directeur général qui fait le business.
Qui s'appelle Louis Dreyfus.
Ah non, pas du tout. Grégoire de Vessière.
Au niveau de l'Obs.
Au niveau de l'Obs, oui, mais moi je travaille avec Grégoire de Vessière, donc il est directeur général, il s'occupe beaucoup du business et moi je m'occupe de la rédaction.
Mais
donc,
comme
je suis
vous le savez,
de la rédaction.
Vous avez raison, mais comme vous le savez, un hebdomadaire est représenté par son directeur de la rédaction. Et à ce
Absolument.
Titre, c'est ce que le contenu est porté par vous.
Mais c'est un poste qui a été cumulé par certaines personnes. On avait les deux, non? Si je ne m'abuse. Denis Oliven, par exemple. Non.
Il y avait il s'était mêlé de la rédaction, mais il avait été nommé comme directeur. Il
Autant
faisait des
moi.
Éditoriaux, il avait pris une carte de presse. Parce
et
que,
puis vous
voilà.
êtes dans un groupe qui s'appelle le groupe Le Monde, on y reviendra ouais, dans la deuxième
absolument.
Partie. Peut-être une réaction sur New York Times, Financial Times.
C'est réjouissant parce que ça valide notre stratégie qui est de la croissance se trouve dans le numérique et c'est l'abonnement numérique qui doit tirer la croissance de demain, premièrement. Alors deuxièmement, il faut dire aussi que les grands médias américains sont aidés par Trump parce que le signe de la résistance, c'est de s'abonner au New York Times maintenant ou au Washington Post qui joue les contre-pouvoirs et heureusement face à Trump. Et à la manière dont il veut transformer les États-Unis et amoindrir la démocratie américaine. Donc, on n'a pas, heureusement, on n'a pas cette chance-là en France, je dirais, parce qu'on n'a pas de Trump à combattre. Mais il faut lire ces chiffres parce que je crois que vraiment, le rebond des abonnements du New York Times, il y a une grande partie qui est due à Trump. Cela dit, c'est le basculement vers un lectorat qui veut de plus en plus lire où il veut, quand il veut, sur le mobile et sur tous les supports. Et donc le numérique, oui, et l'abonnement numérique, oui.
Le succès de ces journaux, c'est une mutation technologique, c'est une mutation des rédactions. Comment vous l'expliquez ?
Ben, c'est une bonne stratégie pour une offre numérique diversifiée. Et là aussi, c'est intéressant que vous souligniez que tout le monde ne s'abonne pas à toute l'offre du New York Times. Il y a des offres affinitaires, et c'est, on y reviendra, c'est ce qu'on essaie de développer à l'Obs. Trouver des communautés affinitaires à qui on donne du contenu avec lequel ils se sentent en adéquation. Et c'est ça qui motive les abonnements, c'est construire un peu une famille avec des valeurs communes.
Emmanuel Paquette.
Je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais c'est vrai aussi que le point fort de ces deux quotidiens américains, c'est d'être devenus des éditeurs de logiciels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste qui écrit dans le New York Times ou le Washington Post écrit indifféremment pour le papier ou pour le site internet. Et de ce point de vue-là, ils ont mis en place des logiciels qui sont très performants. On sait aujourd'hui que toutes les grandes directions de tous les grands journaux du monde vont voir le New York Times et le Washington Post. De temps à autre, tentent d'acheter le logiciel, puisque ces logiciels-là sont à vendre ou à louer, entre guillemets, à ces éditeurs, pour ensuite les implanter dans différents pays. Je crois qu'en France, il va y avoir des tentatives qui vont être faites d'ici peu, à ma connaissance. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est des nouvelles lignes aussi de rentabilité pour des journaux qui deviennent plus que des journaux, mais quasiment des valeurs, entre guillemets, high-tech à l'ancienne, en devenant éditeurs de logiciels, en tout cas pour l'édition.
Et en plus, ce qui est intéressant avec le Washington Post, c'est qu'il est possédé par Jeff Bezos, donc qui est le fondateur d'Amazon, et qui a autant d'ingénieurs que de journalistes maintenant dans le groupe, et qu'en plus de ces logiciels, il y a aussi une analyse très fine des data, des données. Et de plus en plus, dans le numérique, justement, on essaye de cibler à travers les données le public affinitaire sur les contenus qu'on peut produire sur différents supports.
Autre sujet d'actualité sur France Culture en direct, 19h12. Emmanuel Paquette, une étude parue tout récemment qui concerne notamment la lecture, en particulier la lecture des jeunes.
Oui, donc c'est une étude du Pew Research Center aux États-Unis qui a été réalisée en fait dans 8 pays d'Europe de l'Ouest, donc dont l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, entre autres. Et l'idée était de voir un petit peu comment s'informer aujourd'hui les différentes classes d'âge, notamment les 18-29 ans. Ce qu'il en ressort, c'est que 63% d'entre eux s'informent au moins une fois par jour sur Internet, donc en allant directement sur des sites d'information ou en passant par Facebook. Il faut savoir que ce taux pour les plus de 50 ans est seulement de 41%, donc on voit la différence de consommation de l'information entre les plus jeunes et les plus âgés, et qu'ils passent seulement 44% de leur temps à la télévision pour s'informer, donc bien moins que sur Internet. La radio arrive en troisième position avec 30% seulement, et en dernier, donc c'est la presse écrite avec seulement 11% pour s'informer auprès des jeunes, donc de 18 à 29 ans. Alors ça, c'est le côté un peu négatif pour la presse écrite de cette étude. Le côté un peu positif, c'est qu'en revanche, en termes de crédibilité, les titres qui aujourd'hui ont le plus de crédibilité vis-à-vis de cette tranche d'âge des 18-29 ans, c'est des titres comme Le Monde, par exemple, avec 73% quand même des plus jeunes qui font confiance à ce titre-là, suivi du Figaro avec 53%, Libération 46%, alors, je parle aussi de l'Express, 43% qui arrive en dernier. Et devant, il y a aussi donc des grandes chaînes de télévision comme TF1 avec 62%, France 2 avec 71%. Donc ça, c'est le côté plutôt positif. On s'informe essentiellement sur Internet, mais en même temps, on continue de faire confiance à des grandes marques plutôt connues.
Dominique Norum.
Là aussi, ça valide complètement la stratégie qui est de faire cette transition numérique, c'est-à-dire asseoir notre marque, l'Obs, qui est déjà une marque forte, mais auprès d'un public plus âgé et essentiellement sur le papier, l'asseoir sur le numérique auprès d'un public plus jeune. On a un petit peu rajeuni, la dernière étude One monte plus 31% sur les moins de 35 ans. On n'est pas sur la tranche, très fort sur la tranche d'âge, je pense, 18-25, mais beaucoup à travers des offres comme Rue 89 sur notre site, je pense, il y a un public beaucoup plus jeune qui nous lit. Et donc l'idée est de, à travers notre offre, notamment web only, c'est-à-dire exclusivement pour le web, de trouver un public plus jeune.
France Culture, 19h15. Ce soir, on parle de l'Obs, le magazine que dirige désormais et sa rédaction Dominique Nora, mon invité dans Soft Power. Mais juste avant de retrouver la directrice de la rédaction de l'Obs, pour clore cette séquence rapide d'actualité ce soir par une actualité musicale, voici le nouvel album des Black Eyed Peas. Après 8 années d'absence, le groupe américain est de retour, mais sans sa chanteuse vedette Fergie, qui se consacre à une carrière solo. Le trio restant sort un album engagé et séduisant cette semaine entre le hip-hop et la pop, avec à la clé un concert au Zénith à Paris le 12 novembre. Les rappeurs dénoncent dans cet album les tueries de masse dans l'Amérique de Donald Trump, le repli communautaire, et militent aussi contre le cancer dont Tabou, l'un des Black Eyed Peas, a été atteint. L'album donne le tournis lors des premières écoutes, mais montre bientôt sa profondeur et son originalité. S'il n'a pas de véritable tube, ce qui l'a privé pour l'instant d'entrer dans les meilleurs streamings de la semaine, il se laisse apprivoiser peu à peu. Peut-être l'un des meilleurs albums du moment, Masters of the Sun, volume 1, dont on écoutera 2 autres extraits au cours de cette émission, Black Eyed Peas. 247 like the hand on a watch to the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. It goes on and on, all around the clock. 365 to the new year drop. To the tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop. We keep it constant, constant, constant. You don't stop, constant.
We be throwing down like Muhammad. Niggas don't be knowing we be flying like comets. Slick with the tongue, word out the mouth vomit. Master of the sun, we rocking these comics. Better beware, spiritual warfare. Spreading love, northern and southern hemisphere. Like a beast took it out of the stratosphere. We made it to the top, living on a prayer. Nation to nation, good vibration. Underground sound hit the whole population. Check the demonstration, coming from the peas. Moving high velocity, no time to freeze.
Music, please.
Seven like the hand on a watch. To the
tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop.
It goes on and on, all around the clock. 365 to the new year drop. To the
tick tock, you don't stop. To the tick tock, you don't stop.
We keep it constant, constant.
My job is to take it to the next. I maneuver through the simple mind to keep it complex. Spiritually, mentally, we will connect. We do it intentionally for progress. First is the heart, gotta spread the love effect. Second is the mind, gotta feed them intellect. Third is the body, gotta treat it with respect. Cause you don't wanna be a ghost, be the spirit, yes. One love, one tribe, staying colorblind. Inspired by Apple cause he's really colorblind. We keep it on the positive cause it is hard to find. We keep it on the positive cause it is hard to find. We keep it constant.
19h18 sur France Culture, Black Eyed Peas sans Fergie. Mais avec le trio, un album dont on écoutera tout à l'heure 2 autres extraits. Dominique Nora, directrice de la rédaction de l'Obs, est mon invitée ce soir. Revenons peut-être à Dominique Nora un petit peu sur votre parcours. On vous connaît comme auteur, comme écrivaine de plusieurs ouvrages, notamment sur les États-Unis. On vous connaît aussi comme journaliste qui a écrit à Libération et à l'Obs longtemps, depuis longtemps, notamment dans les secteurs des industries culturelles, des secteurs du numérique. Je crois que vous avez commencé comme ingénieur agronome, oui, ministère de l'Agriculture.
Absolument.
Comment ça s'est passé?
J'ai mal tourné ensuite. J'ai fait une prépa agro, on disait à l'époque, je crois que ça a changé de nom maintenant. Et j'étais ensuite étudiée à l'école agronomique supérieure de Montpellier et en troisième année à Paris, rue Claude Bernard, en économie rurale. Suite à quoi, en fait, quand on fait l'agro et qu'on est jeune et ado, on se dit je vais aller creuser des puits dans le Sahel. Et en fait, les jobs que j'ai trouvés, c'est au ministère de l'Agriculture, où j'ai passé 2 ans, mais où j'ai trouvé ça un tout petit peu bureaucratique, ça manquait un petit peu d'action. J'ai appris plein de choses parce que je m'occupais du comité 113 qui était en fait le GATT de l'époque, c'est-à-dire l'ancêtre de l'OMC, donc les négociations commerciales internationales sur l'agriculture. Mais bon, ça manquait vraiment d'action et j'avais l'impression que quelle que soit la dose de travail, on ne voyait pas bien le résultat.
Et donc peu à peu, le journalisme, deux titres essentiellement, Libération et
voilà, j'ai croisé une copine qui m'a dit
Obs.
Mais tu devrais te reconvertir et il y a un truc qui s'appelle la Fondation Journaliste Demain. Ils prennent des gens Bac plus 5, quel que soit le domaine, et ils en font des journalistes en une année et en plus ils les payent, t'as une petite bourse et tout. J'ai dit c'est exactement ce qu'il me faut. Et c'est ce que j'ai fait.
Mais voilà. Ce qui est frappant quand on regarde votre carrière, c'est non seulement ces étapes assez longues, comme économie, journaliste économique, journaliste culturel, etc., à Libération et à l'Obs, mais aussi, à beaucoup de moments, à plusieurs moments, un souhait de partir, de tout quitter, de partir souvent sans solde, sans salaire, et souvent, non pas au Sahel, mais aux États-Unis.
Non, mais ce métier, ce qui est intéressant, c'est la diversité, c'est se nourrir en permanence, c'est apprendre de nouvelles choses.
Et là, c'est
prendre
des risques
aussi.
Et donc,
je me suis construit une carrière où tous les 3-4 ans, je remettais en question un petit peu ce que je faisais, et je me fixais des nouveaux challenges, que ce soit d'écrire un bouquin, les possédés de Wall Street sur les OPA sauvages... À Wall Street, j'avais jamais vécu aux États-Unis, mais là, je suis tombée amoureuse des États-Unis. Je suis rentrée à Libé, j'ai dit à Serge Juilly, je veux aller à New York, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il dit, c'est trop cher, on n'a pas de poste et tout, un demi-salaire. Je suis partie, j'ai complété avec l'Express, Europe 1. Enfin bon, je crois que c'est un métier où, quand on est curieux, on veut apprendre, il faut sans arrêt changer de matière, de pays. Alors, j'ai eu comme dominante le journalisme économique, mais en fait, j'ai fait des choses extrêmement variées. Et à travers l'économie, on peut parler de tout.
Donc, et puis, cette passion pour l'Amérique, une Amérique donc New York, mais après aussi la Californie, où là, vous voyez les débuts d'Internet, avec cette passion pour l'Amérique un peu, je ne sais pas, là, est-ce que c'est de Woodstock à Kerouac ou plutôt en sens inverse? Est-ce que c'est au plus, on va vers l'Ouest, au plus les cheesecakes et les carrot cakes sont sucrés et gros?
Mais je suis tombée amoureuse de la manière dont on pouvait travailler en tant que journaliste aux États-Unis. C'est tellement grand, il y a tellement de sujets et les gens sont très ouverts en fait aux questions, même si on vient de nulle part pour eux, que c'est qu'une petite française, ils connaissent pas le titre. Ils ont envie de parler aux journalistes et Wall Street et tout ce qui tournait autour était fascinant. Et ensuite, il y a eu cette grande aventure du numérique et d'abord du cybermonde, ce qu'on appelait fin des années 90, qui était une saga incroyable et qui m'a fait découvrir la Silicon Valley. Et donc depuis, c'est ça qui me fascine essentiellement, même si j'ai réouvert mon champ d'intérêt. Cette transition numérique, vraiment, je l'ai sentie arriver. Et voilà, on voit comment elle transforme nos vies, notre société, notre culture. Et c'est toujours ça qui me tient.
Alors vous êtes correspondante de l'Obs, notamment aux États-Unis, dès 89, vous l'avez dit, pendant 3 ans, et puis retour à l'Obs en 1992, et puis donc, depuis quelques mois, vous en êtes la directrice de la rédaction de l'Obs. C'est quoi, pour vous, aujourd'hui, mais aussi dans son histoire, l'Obs? C'est quoi son ADN? Comment vous définiriez ce journal?
L'ADN de l'Obs, c'est celui que, en fait, Jean Daniel et Claude Perdriel ont créé dès le début. Et ce qu'on essaye de faire, c'est pas de tout changer, c'est de refonder l'Obs justement sur ses valeurs originelles, qui sont les valeurs de la deuxième gauche, pour faire vite politiquement, du rocardisme, du progrès social, de la tolérance, de l'ouverture, du débat aussi, mais aussi du plaisir de la lecture, de l'impertinence. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est de l'humour, c'est de la modernité, de la responsabilité. Et l'idée aujourd'hui, c'est de refonder l'Obs sur ces valeurs-là, mais dans un monde qui a complètement changé, lui, avec cette transition numérique et avec cette triple crise, pour faire vite, économique, sociale et écologique du monde.
Mais
c'est un vaste programme.
Quand on lit votre éditorial il y a quelques jours à nos lecteurs des nouvelles de l'Obs, vous reprenez les mots que vous venez de dire, et notamment cette référence à la deuxième gauche. ce qui peut-être ne parle plus à grand monde, hélas, même si ça parle à un certain nombre d'entre nous. Quand on regarde, par exemple, l'ouvrage qui vient de paraître depuis quelques semaines, d'ailleurs chroniqué de Pierre Rosanvallon, qui s'appelle « Notre histoire intellectuelle et politique » de 68 à 2018, qui est d'une certaine manière un peu une biographie, une sorte d'autobiographie de Pierre Rosanvallon lui-même, publié au Seuil, on a l'histoire de ce journal, finalement, l'histoire de cette deuxième gauche. Et c'est un livre qui est à la fois un peu amer, parce qu'il y a eu des défaites très fortes et au fond des impasses. Et en même temps, Pierre Rosanvallon apporte dans une deuxième partie toute une série de propositions pour raconter les origines de ces erreurs et comment peut-être on peut recréer cette gauche-là. Est-ce qu'elle a une perspective, cette gauche que vous voulez encore
j'espère
défendre ?
J'espère qu'elle a une perspective, mais justement, l'Obs doit être un petit peu le creuset de sa réinvention, et c'est pas facile. Mais c'est cette filiation politique de Mendès, Rocard. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette deuxième gauche doit penser sur tout ce qui divise la gauche, justement, sur la bioéthique, sur la montée des identitaires, sur l'écologie, sur l'Europe? C'est tout ça qu'on essaye de mettre en débat. On n'a pas de ligne toute faite, c'est super compliqué.
Mais ça veut dire que ce débat...
C'est pas la gauche, elle se définit peut-être par ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas anti-marché, anti-capitaliste, mais elle trouve que le libéralisme a été trop loin, que le monde est devenu trop inégalitaire, qu'il y a trop d'individualisme, et donc c'est refonder du collectif. Et c'est pas la gauche alter-mondialisme, mais c'est la gauche qui doit reconstruire une mondialisation à visage humain.
Ces tensions dont on parle, elles existent au sein de la rédaction, peut-être entre différents types
Bien sûr,
de générations aussi de journalistes.
On est tout à fait représentatif de la gauche au sein
mais
de la rédaction.
Mais certains ne doivent pas se reconnaître
certains
dans la...
Certains votent Mélenchon ou même peut-être...
Donc la deuxième gauche, ça doit effrayer un certain nombre de vos journalistes, non ?
Mais oui, mais il y a une ligne éditoriale. Et moi, pour le coup, alors j'essaye de construire une ligne éditoriale dans la lignée de la deuxième gauche. Et donc, il y a des débats qui sont intéressants et qui sont parfois passionnels. Et toutes les unes ne font pas l'unanimité. Et tous les éditoriaux ne font pas l'unanimité. Mais ce débat-là, on essaye aussi de le mettre en scène, justement, parce que c'est le débat qui traverse notre lectorat.
Comment vous voyez ces jeunes journalistes, ces nouvelles générations qui sont souvent rentrées par le web à l'Obs et qui rejoignent aujourd'hui l'ensemble de la rédaction, qui font partie de cette rédaction?
Comment... Je les vois comme on était nous il y a 30 ans.
Mais en quoi ils sont différents?
Eh ben, ils sont plus à gauche, ils sont plus passionnés peut-être, ils sont...
Féministes, ils sont...
Ils sont très féministes, mais du... Moi aussi, je suis féministe, mais du nouveau féminisme. Ils sont plus intersectionnels pour certains, ou proches des indigènes de la République que...
Ça vous effraie ?
Moi, c'est pas ma culture, et je pense que c'est pas la ligne de l'Obs. Et donc, par exemple,
donc
on met en scène la semaine prochaine... Un débat entre Bouteldja, donc les indigènes de la République, et Clavreul, qui est le printemps républicain. Donc vous voyez,
proche de Manuel Valls.
Voilà, on met vraiment en scène les dissensions. Et d'ailleurs, il y a une de nos rubriques, on y reviendra,
nouvelle
sur
rubrique,
le projet éditorial qui s'appelle Dissensus et qui est faite pour ça. Mais au lieu de s'invectiver et de se jeter des insultes à la tête comme on le fait sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, on essaye d'aller au fond des arguments. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est de prendre de la hauteur et de mettre en scène des débats, mais à coup d'arguments, disons, qui tiennent la route plutôt qu'à hominem ou des insultes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
I'm sick and tired of people telling me that America is the greatest country because we can whip your ass.
Try to impeach him. Just try it. You will have a spasm of violence in this country like you've never seen.
Governor Snyder, I got some Flint water for you.
If nobody's gonna do it, then I gotta do it.
And I don't give a who you are. I'll fight you in the damn street right now.
Okay, how... the f*** did this happen?
The American dream is dead.
Stop resisting.
The president's powers here are beyond question.
Ladies and gentlemen, the last president of the United States.
À l'instant, on extrait la bande-annonce du nouveau film de Michael Moore, Fahrenheit 11/9, 9 novembre en français, en référence à la date de l'élection de Donald Trump. Le film est disponible en VOD partout depuis ce mercredi. Après avoir été l'opposant numéro 1 de George Bush, Michael Moore récidive en devenant l'opposant préféré de Trump. Comme toujours, c'est pas très subtil, mais évidemment, ça reste efficace. Trump en pervers narcissique ou en Hitler en puissance, on connaît Michael Moore. Ce qui est également intéressant, c'est le mode de diffusion de ce film. Vous pouvez le télécharger ou l'acheter en ligne pour des prix qui vont de 3€ à 10€ sur Canal VOD, Vidéo Futur, Filmo TV ou MyTF1 par exemple. Mais en revanche, ni sur iTunes, ni en SVOD sur Netflix. Dominique Nora est la directrice de la rédaction de l'Obs et mon invité jusqu'à 20h. Trump est-il foutu? Telle est la une, Dominique Nora, de l'Obs ce week-end. Pourquoi une telle une quand il est probable que Trump restera au pouvoir, qu'il devrait même conserver le Sénat, et s'il peut peut-être sortir affaibli à la Chambre ce mardi lors des mid-term élections, il ne semble pas en plus mauvaise posture que, par exemple, Obama lors des mid-term. Pourquoi un tel titre? Pourquoi?
C'est peut-être un vœu pieux.
Pourquoi? Pourquoi?
Non, on peut répondre non, et un peu c'est ce qu'on fait à l'intérieur, mais je pense que quand même, il va perdre la chambre. En fait, c'est quand même très probable. Et à ce moment-là, il sera empêché de faire un certain nombre de choses. Et
les enquêtes sur
l'interférence de la Russie dans les élections, etc., peuvent prendre de la vigueur. Et donc, on peut espérer qu'il ait un petit peu moins de pouvoir qu'avant. Voilà.
Mais ce qui est étrange quand on regarde ce numéro, c'est qu'on a une comme ça. Et puis, en même temps, quand on tourne les pages, on a une série d'études qui montrent que au niveau du chômage, c'est très bien. Au niveau de la bourse, c'est parfait. Au niveau de la croissance, c'est excellent. Ça, c'est l'article je ne sais plus quelle page, parce qu'elle n'a pas de numéro, mais bref, vous le connaissez.
Mais l'économie,
c'était
largement Obama qui avait quand même mis l'économie américaine sur les bons rails. Après, Trump a accéléré la croissance en baissant massivement les impôts, mais au prix d'un alourdissement incroyable du déficit américain. Et donc maintenant, les taux d'intérêt remontent et le déficit est très important. Donc il faut voir si c'est durable.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors, ce qu'on voit aujourd'hui sur l'Obs, sur le positionnement de l'Obs, c'est que vous avez décidé de fusionner les équipes du print avec les équipes du web. Alors c'est une fusion qui est généralement complexe à mettre en œuvre, hein, puisqu'on nous-mêmes nous l'avons vécu. C'est généralement des cultures différentes, des âges différents, des expériences différentes. Et est-ce qu'aujourd'hui ça se passe bien ou est-ce qu'il peut y avoir des tensions au sein de la rédaction dans cette nouvelle
Alors,
fusion?
On est extrêmement content de notre restructuration. D'abord, je dois souligner que c'était effectivement, j'avais moi ça comme projet, donc j'ai été élue sur ce projet de fusion. À 73% par la rédaction et qu'ensuite notre projet de fusion qu'on a élaboré très très vite après mon arrivée en fonction mi-mars a été effectif en juillet et a été approuvé par toutes les instances, le CE, le CHSCT, la SDR. Et on a démarré sur cette nouvelle organisation début septembre. Et il y avait un gros risque, effectivement, puisque le risque, c'est de l'effondrement de l'audience sur le web, puisque la rédaction web, qui était un petit peu attachée à son ordinateur pour faire du flux, est passée dans des pôles bimédia qui sont censés faire à la fois du flux et de la valeur ajoutée sur le web et sur le print. Or, ce qui s'est passé, c'est que l'audience a augmenté. C'est-à-dire, on a, par exemple, en septembre, battu le HuffPost en audience. Donc,
En
audience web. Le risque qu'on pouvait craindre de baisse d'audience ne s'est pas produit. Et parallèlement, on a beaucoup plus de papiers à valeur ajoutée payants qu'on met en ligne exclusivement sur le web. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir des papiers de la qualité du print en offre sur le web pour déclencher de l'abonnement numérique, l'abonnement d'impulsion étant à 1€ par mois. Donc l'article vous plaît, vous cliquez pour vous abonner à 1€ par mois. Après, si vous n'êtes pas content, vous désabonnez. Mais l'idée ensuite, c'est de garder ses abonnés. Et chaque semaine, on engrange une cinquantaine d'abonnés numériques supplémentaires grâce à notre offre numérique. Donc cette réorganisation, elle porte ses fruits. Et le climat dans la rédaction, enfin, c'est pas à moi de le dire, mais il vaut mieux que vous appeliez les gens de la rédaction.
Il est
bon parce que les gens du web ont l'occasion de partir en reportage, de faire des choses qu'ils ne faisaient pas, de se confronter à l'écriture de papiers plus longs. Et les gens du print savent qu'ils doivent apprendre le web et ils vont volontiers. Ils inventent des rendez-vous par pôle. Comme par exemple un jour au palais pour le pôle affaires qui raconte des audiences. Voilà. Et on a des il nous reste des éléments éditoriaux très forts comme Rue 89 qui est beaucoup plus identifié web, mais qui apporte énormément aussi aux covers qu'on peut faire sur des covers participatifs comme Combien tu gagnes, qui sont nos meilleurs covers en vente kiosque. Donc il y a vraiment une synergie. Chacun s'apporte quelque chose de la culture de l'autre.
Pour revenir un petit peu en arrière, et on est très content d'entendre ces nouvelles-là, faut rappeler que Rue 89, il a été racheté en 2011, je crois, plusieurs 7 millions, je crois, d'euros. Ça a été, d'une certaine manière, vécu de loin, plutôt comme un échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça n'est qu'en 2018 que vous faites ce type de restructuration? Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce mariage un peu raté avec Rue 89, qui était quand même une rédaction très forte avant de rentrer dans le groupe de l'Obs?
Ça, c'est pas tellement moi qui étais aux commandes, donc je suis un petit peu gênée pour commenter ce qui s'est passé avant ma prise de fonction.
Même si Pascal Richer est votre numéro 2, donc c'est une forme, et Pierre Aski, chroniqueur, donc vous les avez intégrés.
Bien sûr, mais Rue 89 était un élément précieux de la rédaction qui a été mal utilisé parce que justement, le mélange des cultures ne s'est pas fait à ce moment-là. Et donc, ils sont restés un petit peu en ghetto dans la rédaction. Et on leur a pas donné, à mon avis, sur Internet, les responsabilités qu'ils auraient dû avoir. Ils ont été rachetés, ils étaient déficitaires, donc il n'y avait pas de business model gagnant à Rue 89, mais il y avait un savoir-faire sur le web, notamment d'impliquer les audiences sur le web, qui était énorme et qui était sous-utilisé. Et justement, c'est cette hybridation de culture qu'on essaye de faire maintenant.
Mais c'était trop tôt en 2011.
J'espère pas marcher.
C'est ça? Pardon? C'était trop tôt en 2011, peut-être?
Je ne pense pas, mais ça n'a pas été fait. Voilà.
Si on regarde les chiffres, si on prend la diffusion payée de l'Obs, elle est actuellement à 307 000 exemplaires par semaine, contre 315 000 pour Le Point et 127 000 pour l'Express. La diffusion kiosque est autour de 23 000 exemplaires, contre 46 000 pour Le Point, 32 000 pour Marianne et 15 000 pour l'Express. Vous êtes donc en gros le numéro 2 derrière Le Point. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de regarder le ratio abonnement kiosque. Et là, c'est très spectaculaire. Le Point à 88% à peu près d'abonnés et 12% de ventes en kiosque. Quand vous êtes à 95% d'abonnés et 5% en kiosque, l'Express à 84% d'abonnés et 16% en kiosque. En gros, les lecteurs de l'Obs ont disparu des kiosques. Pourquoi?
Ils n'ont pas disparu des kiosques. Ce qui s'est passé, et il faut lire ces chiffres à la lumière d'une stratégie qui a été de faire la distribution en kiosque, de la rendre rentable. Or, Le Point, et je sais pas, pour l'Express, je connais pas les chiffres, mais ils mettent en place énormément, et donc il y a des invendus qui sont autour de 60%. Nous, notre taux d'invendus est tombé autour de 45%. Et donc il y avait un souci de rentabilité. Il faut pas oublier qu'au moment où Claude Perdriel vend aux actionnaires du Monde, l'Obs perd 10 millions d'euros.
Voilà. 3 millions la première année, 6 millions, 9 millions.
En 2017, on était bénéficiaires en exploitation. Donc il y a eu un assainissement considérable de la gestion de l'Obs qui a passé par une moindre mise en place dans les kiosques. Donc mécaniquement, même les bons numéros ne peuvent pas dépasser un certain plafond.
Parce que les exemplaires ne sont pas là.
Voilà.
Mais surtout quand les kiosques sont fermés en plus.
Mais nos actionnaires ont privilégié la rentabilité sur une audience qui n'était pas rentable. Voilà. Donc du coup, en kiosque, on vend moins. En revanche, on a encore un matelas d'abonnés papier très confortable et qu'on essaye de garder, voire de faire progresser. Mais c'est très compliqué de progresser sur le papier. Et donc, ces abonnés papier, on leur demande d'activer leur espace numérique
donc,
sur le web.
Puisqu'ils
sont abonnés papier, mais ils peuvent tout lire.
L'avenir est clair, ce n'est ni le kiosque ni le papier, c'est l'abonnement numérique.
Mais les abonnés papier sont précieux, il faut absolument qu'on les garde. Mais je pense que s'ils activent leur espace sur Internet, ils ont accès à des papiers qu'ils n'ont pas sur le magazine en kiosque, et qui sont nouveaux et qui sont exclusivement pour le web.
Emmanuel Paquette.
Alors on voit qu'il y a un positionnement un peu différent entre les news magazines sur les kiosques numériques. Le Point aujourd'hui a refusé d'aller dans tous les kiosques existants, celui de SFR notamment, celui de Bouygues Télécom également et celui d'Orange. C'est un peu la ligne que suit aujourd'hui le groupe Le Monde avec l'Obs. Je voulais savoir si c'était quelque chose que vous partagez en termes de politique ou c'est quelque chose sur lequel vous pourriez revenir à terme.
Mais ça, c'est des choses qui se décident au niveau du groupe. Donc, c'est bien
vous êtes directrice de la rédaction.
Je suis directrice de la rédaction et je ne fais pas toute la stratégie business. Bien sûr, il y a des discussions en interne, chacun donne son avis, mais ça appartient vraiment aux actionnaires.
Mais vous, à titre individuel, pour l'Obs, vous seriez plutôt ouvert à rejoindre ce type de kiosque ou vous comprenez?
Moi, je suis ouverte à tout ce qui peut bénéficier à la diffusion de l'Obs.
Dans votre projet pour l'Obs, quels sont les... Donc, on a vu l'abonnement numérique, on a vu la fusion des rédactions web-print. Quels sont les autres territoires à pouvoir exploiter en termes de chroniques? Vous avez ouvert un certain nombre de chroniques. Vous avez parlé de la relation communautaire. Vous employez le mot affinitaire, mais on n'est pas loin. Il y a la question de la francophonie aussi, qui peut être une territoire à ouvrir.
Oui, on a un projet éditorial qui est d'abord de repositionner la marque sur un certain nombre de domaines dont elle était trop absente à mon avis, notamment sur le sociétal.
Ce qu'on appelle les verticales, c'est ça un peu en fait.
Oui, des verticales. Donc on insiste pas mal sur tout ce qui est. Alors la culture est un point fort. Hein, on n'en parle pas et j'en parle.
Et les idées, oui.
Et j'en parle pas assez. Mais la rubrique culture de Jérôme Garcin. Et son vertical, pour le coup, numérique, qui s'appelle Bibliops, est au cœur du projet éditorial. Il n'est pas à redévelopper, donc j'en parle moins, mais ça, c'est un pilier fort du projet éditorial. Ensuite, le débat d'idées, on le développe à travers cette rubrique Dissensus, qui est 2 pages par semaine sur le magazine, et qui a son pendant web où il y a beaucoup plus de dissensus, c'est-à-dire, mais ça peut aller.
Ça, c'est Carole Bergeon avec des jeunes d'ailleurs que vous avez recrutés.
Voilà, c'est Carole Bergeon et deux
Rémi
jeunes.
Rémi Noyon, Timothée Villars, etc.
Voilà, qui sont issus du web. Mais toute la rédaction y participe parce que c'est un espace où il peut y avoir des dissensus environnementaux, des dissensus culturels, des dissensus sur faut-il réintroduire des ours dans les Pyrénées ou faut-il mettre la police dans les écoles ou donc les dissensus ils sont dans tous les domaines et toute la rédaction est censée en faire. Mais c'est une rubrique dirigée effectivement par Carole Bergeon. Ensuite, il y a évidemment la rubrique idées de François Hermanet où il y a beaucoup d'interviews et de critiques, d'essais et qui là aussi anime le débat autour de sociétal, politique, environnemental. Ça, c'est un axe. Et autour de Rue 89 et de la société, là, on essaye de développer des articles à la fois en cover mais aussi sur le web, sur l'environnement, sur l'école, sur la sphère intime et le développement personnel qui est un peu la marque de fabrique de Rue 89. Et tout ça, c'est un des moteurs d'ailleurs de l'abonnement numérique, c'est cette sphère intime et c'est Rue 89. Donc,
et c'est ce que vous appeliez l'affinitaire pour une part ou c'est un peu...
C'est beaucoup, oui, absolument, absolument. Mais l'affinitaire, c'est par exemple sur l'environnement, je pense qu'il y a à bâtir un lectorat affinitaire. On était très très peu présents et bizarrement...
Affinitaire, ça peut être aussi les communautés, on peut aller vers cette tendance-là. Par exemple, Libé fait un petit peu ça, par exemple, avec certaines communautés qu'il cible précisément avec des journalistes dédiés.
Alors, nous, on essaye aussi, par exemple, en étranger, d'avoir un vertical sur Afrique-Maghreb qui parle de la vie dans ces pays, mais pas seulement les conflits, la politique, la vie de tous les jours aussi, la culture, la société, et qui peut s'adresser aussi aux communautés issues de ces pays et qui vivent en France. Donc, tous ces projets-là, on les développe en même temps. Et bien sûr, développer la marque sur le papier et sur le web... Aussi, on essaye de faire du hors-média et faire de l'événementiel. On n'a pas encore mis ça en route parce que depuis mars, on a déjà fait beaucoup de choses et cette restructuration de la rédaction nous a beaucoup occupés. Mais on va commencer en 2019 à avoir des événements autour de... Et j'ai oublié un des pans aussi du projet éditorial important, c'est que c'est l'économie, mais c'est le numérique, le futur,
l'innovation.
Le monde de demain, ouais. L'innovation.
Combien voilà,
qui
pour
sont
tout
un
ça,
peu mes marottes personnelles.
Pour tout ça, vous avez combien de cartes de presse?
Alors, il y a 130
cartes. Après deux plans de départ et oui. Un plan social
alors,
qui a coûté
100,
cher.
On a encore une très belle rédaction. Il y a 130 cartes de presse, il y a 90 rédacteurs. Qui
ça
sont...
veut dire qu'il y en a déjà 40 qui n'écrivent pas, c'est ça?
Bah, c'est tous les services, bah, Icono, SR, Édition, qui sont précieux, mais qui n'écrivent pas, Maquette, etc.
Donc 130 cartes de presse, donc
90
écrivants. Quoi.
Voilà, les 90, il y a la moitié qui était de la rédaction web. Et donc ces 90 sont maintenant répartis dans des pôles bimédia.
Vous évoquiez justement le développement de la dimension événementielle qui est déjà extrêmement pratiquée au sein du groupe qui est aujourd'hui le vôtre, c'est-à-dire le groupe du Monde, avec Le Monde qui fait des conférences, Télérama. De ce point de vue-là, Je pose la question très clairement. Si vous investissez aujourd'hui, vous investissez et sont beaucoup sur le numérique, parce que il y a certaines villes et langues qui disent que vous n'investissez peut-être pas encore assez sur le numérique. Ou est-ce que c'est plutôt aller vers ce secteur-là, avec une autre question qui se pose, à savoir que l'Obs est assez proche aussi dans le type de public qu'elle pourrait réunir autour de sa marque, de marques comme par exemple celle de Télérama ou celle du Monde sur cette question de l'événementiel. Comment est-ce que vous gérez aussi, disons, la proximité de cette marque avec celle avec d'autres marques du groupe Le Monde?
Alors, toutes les rédactions sont autonomes et doivent développer leur propre projet, que ce soit en média ou hors média. Et je pense que dans la lignée de notre projet éditorial, il y a des événements hors médias où on peut vraiment attirer les lecteurs de l'Obs. On le faisait beaucoup en France dans le temps et on a un peu abandonné ce terrain. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a les événements qu'on fait sont très plébiscités par le public et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc même si les thématiques sont pas extrêmement différentes, on peut trouver des choses plus identifiantes. Et là, je vais pas décliner ce qu'on prépare pour 2019 parce que c'est en train de se mettre en place, mais vous verrez que on a toute une série d'événements qui vont se dérouler en 2019. Je sais pas si vous serez épatés, mais je pense qu'il y a un grand appétit pour voir les journalistes en direct et pour débattre de la part des lecteurs aujourd'hui.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors, il y a une crise de la presse dont on a parlé précédemment, mais dans la crise de la presse, il y a une crise des news qui ont une deuxième étape, puisque les news aujourd'hui sont probablement les titres qui souffrent le plus. Certains vont même jusqu'à penser que le news, en 2018, ne peut plus exister, il n'y a plus de place pour les news.
Ils sont condamnés, en fait.
Ils sont tous condamnés à mourir. Vous pensez qu'il y a moyen de faire coexister encore aujourd'hui des papiers chauds sur le web avec la tiédeur, entre guillemets, de l'information qui est traitée dans un news?
Oui, je pense tout à fait, parce que les papiers chauds sur le web, on ne fait pas toute l'actu, on ne fait pas le flux, on ne fait pas l'actu comme les autres, on essaye vraiment d'angler notre web, et de lui donner une couleur éditoriale, et on essaye de maintenir l'audience, mais on n'essaye pas de la développer à tout prix. En revanche, on essaye de creuser de plus en plus, en profondeur, sur le reportage, sur les longs formats et les histoires plus écrites, etc. Et je pense qu'il y a une spécificité du news qui peut perdurer. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tous les news existants sur le marché français?
Mais ça veut dire en
peut-être
gros
peut-être pas
que...
parce qu'on est trop nombreux.
Ça veut dire que Hebdo Papier ne peut pas être un quotidien sur le web?
Non, c'est pas du tout un quotidien, c'est un magazine en ligne. Et je pense que tout en maintenant une audience, on fait des papiers assez différents de ceux des quotidiens sur notre site.
Mais alors, est-ce qu'un hebdo, par exemple, pourrait être le supplément week-end d'un grand journal comme Le Monde?
Bah pas nous, en tout cas, non, pas du tout. On veut. Le Monde a déjà un supplément.
On pourrait
qui s'appelle
les marier,
M.
Vous savez. Beaucoup de gens s'aiment bien.
C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout le projet. Chacun doit garder son identité.
Puisqu'on parle effectivement de la presse magazine avec vous, Dominique Nora, il y a quand même un acteur qui arrive, est en train d'arriver, qui inquiète beaucoup la presse magazine à proprement dit, même si on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que vous. C'est un acteur qui s'appelle ReWorld, qui a déjà racheté en 2013 un titre comme Marie France, toute une série de titres, ensuite 8 revues de Lagardère, et qui s'apprêterait peut-être à racheter toute une série de titres qui appartiennent aujourd'hui au groupe italien Mondadori, dont Science et Vie, Closer et Gratia. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes titres que vous, mais ce qui en ferait peut-être, si ce rachat était confirmé, le premier éditeur de la presse magazine en France, avec des méthodes très controversées, puisqu'à chaque fois les salariés de ces titres, quand ils sont rachetés, partie reste et finalement un an après le rachat de ces titres de Lagardère, il ne restait plus que 9 journalistes du groupe. C'est un groupe qui assume tout à fait d'investir le numérique et de déléguer ses contenus à des agences de contenu à Madagascar, au Maroc. Donc on n'est plus avec des journalistes mais des producteurs de contenu. Comment est-ce que vous regardez cette évolution potentielle?
C'est l'inverse de ce qu'on essaye de faire. On essaye d'aller vers beaucoup plus de journalisme et on ne délègue rien du tout. Donc je pense que ça valide aussi le fait qu'on soit un groupe puissant, le groupe Le Monde, avec beaucoup de médias différents, parce que il y a des synergies pour tout ce qui est business, pour tout ce qui est régie publicitaire et pour tout ce qui est justement organisation d'événements hors médias. Ça nous donne plus de puissance. En revanche, il faut des titres qui gardent leur identité éditoriale, qui s'adressent à des publics différents. Donc voilà, je pense que c'est un gros
c'est
très différent dans son ADN d'une autre.
Bien sûr, mais c'est une manière aussi d'occuper le terrain à bas coût, je vais le dire de manière assez vulgaire.
Oui, mais on va plutôt vers la qualité et offrir quelque chose dont le lecteur se dit, je suis content de payer. Et c'est pas cher, en fait. L'abonnement numérique à l'Obs, c'est moins de 5 euros par mois.
Ça commence même à 1 euro pour le premier mois.
Ça commence à 1 euro pour le premier mois, mais c'est à moins de 5 euros par mois. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 3 cafés pour avoir l'Obs papier,
que le
plus
Times,
tous
ça.
Les contenus numériques, plus accès à des événements.
Mais sans le beau
média.
Stylo ou la petite pendule.
Non, ça, on a arrêté.
Qu'on
ça.
Recevait par la poste quelques
c'est
mois
fini,
après,
ça.
Qu'il fallait renvoyer parce qu'elle était cassée. C'était horrible.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
France Culture, 19h49, je reçois ce soir Dominique Nora, directrice de la rédaction de l'Obs. Et pour terminer cette émission, cette dernière séquence un peu ouverte autour de votre vision finalement de la presse magazine à l'âge numérique. Et pour commencer, question qui ne peut pas ne pas être posée, une question sur l'actionnariat dans le groupe Le Monde, Emmanuel Paquette.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, vous aviez trois actionnaires qu'on appelait BNP, hein, donc Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigas. Maintenant, on passe à KPM quasiment, donc avec Daniel Kretinsky, qui est donc un milliardaire tchèque qui a fait fortune dans l'énergie, notamment dans les centrales à charbon, ce qui pollue le plus au monde. Hein, donc, par rapport au positionnement de l'Obs sur écologie, ça va être compliqué probablement avec un actionnaire qui a fait fortune
dans
les centrales
à charbon.
Pas du
tout, la ligne éditoriale n'est pas dictée par les actionnaires.
Alors, c'est ce qu'il dit lui aussi, hein, justement, dans l'interview qui sort aujourd'hui, effectivement, dans les échos. Mais cette invitation un peu soudaine de cet actionnaire nouveau, peu connu dans les médias en France, alors assez connu des milieux énergie en France en revanche. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, sachant qu'on ne connaît pas exactement ses motivations, même si, encore une fois, dans l'interview qu'il donne aux échos, il dit que c'est pas du tout pour faire du business en France, notamment dans le domaine énergétique, mais bien parce qu'il a envie de défendre la démocratie et qu'il veut que les titres dans lesquels il investit soient pro-démocratie, ce qui veut dire à peu près l'intégralité des titres de la presse française aujourd'hui, quasiment. Donc,
Ce que ça m'inspire, c'est qu'il a effectivement promis qu'il y aurait une indépendance éditoriale totale de tous les titres qu'il rachetait. Donc du coup, ses positions, elles n'influeront absolument pas sur la ligne éditoriale de l'Obs. Donc voilà, c'est un nouvel actionnaire. Mais vous savez, moi, je ne travaille pas avec les actionnaires. Je travaille avec le directeur général de l'Obs. Et puis voilà, il y a des grandes lignes qui sont fixées d'un point de vue business-gestion. Et la ligne éditoriale, j'ai une complète autonomie pour la...
Donc vous êtes directrice finalement de l'Obs, hein, puisque vous le managez cette rédaction. Mais sur cette question, on a souvent parlé des problèmes que cet actionnaire, dont Daniel Kretinsky, pourrait avoir dans le groupe Le Monde. Et Le Monde a écrit beaucoup de choses ont été dites sur Le Monde, mais on avait oublié qu'il y avait aussi l'Obs derrière, d'une certaine manière.
Bien sûr, on est concerné, puisque en fait, la holding possède de l'Obs à 96%. Mm-hmm. Donc on est dans la même situation que Le Monde. Mais cet actionnaire, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de contrôle, puisqu'il a pris les parts minoritaires d'un des
Mathieu
actionnaires,
Pigas,
qui est Mathieu Pigas, qui lui-même a 23%, plus peut-être la moitié des parts de Pierre Berger, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, ça ne change pas.
Tout ça est venu
la structure
un peu
de contrôle.
De la disparition cet été de Pierre Berger,
voilà,
un peu avant l'été.
C'est un contre-coup.
Et aux trois actionnaires qui s'entendaient bien, qui étaient une sorte un peu de fusion, tout à coup, tout cet équilibre BNP est transformé, sans qu'on sache trop ce qui se passe réellement avec cet actionnaire qui vient un peu remplacer Pierre Berger, mais qui évidemment ne lui ressemble pas beaucoup.
Écoutez, on verra.
Ça,
c'est les discussions entre les actionnaires, se poursuivent, mais me concernent assez peu, en fait.
Question assez brutale, mais on sait très bien qu'il y a cette crise économique de la presse, en tout cas cette transformation économique de la presse à faire. Il y a aussi, et on ne peut pas l'ignorer, elle touche aussi bien à la presse écrite que la radio ou la télévision, une crise de légitimité des médias dans leur globalité, une crise importante. Ces questions autour de ce nouvel actionnaire du Monde, évidemment, vont dans ce sens-là. Il y a eu, je suis désolée de le rappeler ici, une crise à l'Obs en 2016 avec Aude Lancelin, qui justement a été une crise, je crois, importante, même si c'est pas nécessaire d'y revenir. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que directrice de la rédaction, vous pouvez, vous essayez de lutter contre cette crise de la légitimité des médias ?
Je crois que c'est d'autant plus facile qu'il y a le phénomène des fake news et de plus en plus, les gens se rendent compte de tout ce qui est gratuit sur les réseaux sociaux et qui est véhiculé peut être faux. Et que donc, ce sondage que vous citiez, l'étude du Pew, qui montre qu'il y a un retour de confiance vers des marques établies et des anciens médias, joue en notre faveur. Maintenant, la direction de l'Obs, il y a eu la crise effectivement avec Audelancelin. Maintenant, elle est homogène. Elle a défini une ligne éditoriale qui est validée par la rédaction. Donc, on se sent assez à l'aise et légitime dans cette position.
Emmanuel Paquette.
Oui, pour revenir encore une fois, excusez-moi, sur ce nouvel actionnaire. Quand on voit aujourd'hui qu'au niveau de Marianne...
Exactement.
Il possède aussi Marianne.
C'est votre côté anti-tchèque.
Pas du tout, j'aime beaucoup les tchèques. Et donc, elle a pris la reprise de Marianne. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a nommé Natacha Polony à la tête de Marianne avec une ligne éditoriale qui est plutôt, on dirait, souverainiste.
Mais qui était un peu la ligne de Marianne avant, qu'il a accentuée.
Elle a été accentuée, exactement. Donc, visiblement, il a quand même une idée assez précise de du positionnement de ces magazines. Est-ce que vous craignez pas l'Obs, même si c'est un actionnaire minoritaire aujourd'hui, hein, comme vous le disiez dans l'Obs, mais qu'il n'y ait pas une volonté également de, peut-être, de tordre un petit peu la ligne éditoriale?
Écoutez, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de contrôle. Donc, il n'y a aucune raison que la ligne éditoriale change. S'il y a changement de contrôle, eh ben on verra. À ce moment-là, il y a des clauses de cession. Il se passe beaucoup de choses dans les rédactions. Mais franchement, on n'en est pas là. Et pour l'instant, il y a aussi, je voudrais le souligner, le pôle d'indépendance qui peut avoir son rôle à jouer s'il y a des changements de contrôle ou des cessions d'actions.
Un mot sur la loi Bichet qui vient en débat en 2019 et du coup la question Presstalis, c'est au fond tout simplement comment est-ce qu'on obtient un journal dans un kiosque à journaux. J'en ai fait l'expérience ce matin pour trouver un exemplaire de l'Obs que j'avais perdu et égaré depuis quelques jours. Il a fallu faire plusieurs kiosques et ils étaient tous fermés.
C'est compliqué.
À Paris,
les kiosques, je crois que c'est très important de continuer à avoir des ventes en kiosque et qu'on trouve les journaux dans l'espace public, mais c'est très compliqué et structurellement, le marché du kiosque, il est en décroissance et je pense que ça s'arrêtera pas.
Mmh. Mais
on se prépare à des relais de croissance qui sont différents.
Qui ne seront pas des relais, justement. Emmanuel Paquette.
Dans justement la réforme de la loi Bichet, il y a quand même un des éléments qui serait de dire qu'aujourd'hui un kiosque a une obligation de référencer tous les titres existants et qu'à l'avenir, en fait, avec cette réforme, il est possible qu'un kiosque puisse choisir les titres qui mettrait en avant, notamment ceux d'information générale, hein, comme l'Obs par exemple. Est-ce que ça, vous y êtes plutôt favorable? Parce que d'un certain point de vue, c'est un amoindrissement de l'offre éditoriale, puisqu'il y aura moins de titres, mais plus de gros titres seront présents dans ces kiosques.
Ça, je ne suis pas vraiment habilité à me prononcer là-dessus, parce que je suis directrice de la rédaction. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est des questions qui se voient au niveau du groupe, et voilà. Prise de position
pour terminer cette émission, une réaction peut-être juste sur une formule dont on parle beaucoup, notamment en Italie, mais pas seulement, aussi aux États-Unis, ce qu'on appelle le slow journalisme. Oui. C'est pas exactement la même chose que les longues formes. Donc c'est pas seulement du journalisme long, mais c'est aussi un journaliste qui prend son temps. C'est des mots que vous aimeriez, sous une forme ou une autre, défendre.
Oui, mais il faut prendre son temps, mais il faut aussi être dans l'air du temps, parce que sinon on vend pas.
Et dans l'actualité, oui.
Quand on a une rédaction aussi importante que la nôtre, on peut pas juste faire du slow journalisme. Je pense qu'il faut aussi être réactif et avoir des papiers anglais sur l'actualité du jour en ligne. C'est indispensable. On peut pas avoir un site mort ou très froid. Je pense que ça nous coupe des audiences qu'il faut ensuite amener à ralentir peut-être et à réfléchir, mais qui sont quand même friandes de réactivité sur l'actu.
Merci infiniment à vous, Dominique Nora.
Merci beaucoup.
Directrice de la rédaction de l'Obs, au micro de Soft Power de France Culture, ce soir interrogée par Emmanuel Paquette de L'Express et Zoé Sfez. Pour aller plus loin et pour retrouver toutes les références de cette émission, ce soir articles, musique, livres sont sur la page de Soft Power sur le site de France Culture et sur Twitter au mot-clé Soft Power. Soft Power dans un instant, la seconde partie de l'émission avec à 20h10 le club de la presse numérique et nous parlerons ce soir de Fortnite. Fortnite. C'est un jeu vidéo qui séduit des millions de gamers. Nous décrypterons son succès qui permet peut-être de comprendre certaines évolutions du jeu vidéo et de ses nouveaux modèles économiques. On en parlera avec Nicolas Prinsen, ancien conseiller numérique de Nicolas Sarkozy et fondateur de la start-up Gloz, et Emmanuel Paquette de L'Express qui reste avec nous. Et dans un instant, tout de suite, à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
Il s'appelle Pierre-Marc de Biasi, il vient d'entrer en studio et il a publié en septembre au CNR Edition le troisième cerveau, petite phénoménologie du smartphone. On va parler en gros médiologie, comment est-ce que cet objet influe sur nous, sur notre cerveau. Ouais. Voilà. Ouais. C'est dans deux minutes, je crois, juste après un autre titre de Black Eyed Peas, n'est-ce pas ?
Exactement, vous pouvez vous abonner au podcast Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout cela à suivre après, à nouveau sur France Culture, le nouvel album de Black Eyed Peas.
Ready for the new age. New chapter, check the new age. Mac shit, Malcolm X shit. I do the right thing, new school days. Drink the fresh code, taste the Kool-Aid. Depeche mode, I'm on the new wave. All the time, always. I work hard Tuesday to Tuesday. 365 on the calendar. I stay hungry, get hungry like a scavenger. Rocking everybody, now I'm knocking out my challenges. I'm a new Bugatti, never roll up in a Challenger. You're messing with the Trinity. Try this triangle in your vicinity. Maybe that was complex, let me say it differently. Black Eyed Peas rocking till infinity.
We ain't messing around. Shit's about to go down. This is for real. This is for real. We ain't playing no games. Do you hear what I'm saying? This is for real. This is for real. Get ready, get ready. Get ready, get ready. Get ready. Get ready.
Get ready for the bomb drop. Chopping motherfuckers with my tomahawk. Blood clot, blood clot. Cardiac arrest, make your heart stop. You're now tuned in to my monologue. Booming bass place with my dialogue. Zoom out so you can see my whole catalog. I was on the ground when I was an underdog. Now I'm feeling like a
France Culture, il est 20h.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Pierre-Marc de Biasi.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, vous êtes chercheur, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Alors vous êtes critique et littéraire, mais vous êtes aussi, vous travaillez sur ce qu'on appelle la médiologie. On va y revenir. Et vous avez publié en septembre dernier un ouvrage qui s'intitule « Le troisième cerveau, petite phénoménologie du smartphone ». On vous reçoit alors que justement, là, en début de semaine, on a eu les nouveaux chiffres de vente de smartphones qui restent absolument exponentiels avec, et qui nous rappellent d'ailleurs que Samsung reste le premier sur le marché, mais qu'il est talonné par Apple et par Huawei, le chinois qui s'est vraiment imposé. On a aussi appris, par ailleurs, ça je ne sais pas du tout si vous le saviez, mais qu'il y a un constructeur chinois tout à fait inconnu, Royolet, qui lance le premier smartphone pliable du marché, c'est-à-dire un smartphone qui fait la taille du Samsung Note et que vous pouvez replier comme un portefeuille. Donc là, vraiment, le but, c'est qu'il aille le plus près possible de vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais vous avez eu envie d'écrire cet essai, cet essai qui, à la fois, compulse des études, recueille des témoignages et tente d'analyser les conséquences de l'apparition de cet objet qu'est le smartphone. Et c'est bien de la médiologie. Qu'est-ce que c'est que cette discipline ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
En gros, pour faire simple, c'est une discipline qui a été lancée par Régis Debray il y a déjà une vingtaine d'années et qui s'interroge sur ce que la technique fait à la culture et réciproquement, quoi, en gros. Avec cette hypothèse que quelques objets sont dans le temps, dans l'histoire, concentrent en eux une sorte d'esprit de l'époque. Et je crois que pour notre époque, c'est-à-dire le début du 21e, c'est vraiment le smartphone qui a démontré en 10 ans un succès absolument inouï. Quand même 3 milliards à peu près d'utilisateurs, enfin entre 2, 5 et 3, en 10 ans, ce qui est quand même pas mal, hein, 1,5 milliard de nouvelles ventes chaque année. Alors le smartphone, c'est rien du tout, c'est au fond un carrefour, c'est pas Internet, c'est pas l'informatique, mais c'est la mise à disposition de nomades de tout ça, dans votre main, Et c'est ce qui a
fait. Vous comparez d'ailleurs le smartphone au Silex, qui serait presque pour vous autant, même si le mot anglais est très laid, game changer que le Silex, et qui est un objet qui a permis à l'homme non seulement d'évoluer, mais en plus qui a probablement évolutionné la manière dont il utilise son cerveau.
Oui. Et le silex a fabriqué notre espèce, hein, en réalité. Je le compare parce que, au fond, un silex et un smartphone, ça a beaucoup de relations. D'après le roi Gouran, par exemple, hein, le rapport de la main au silex est fondamental. Je pense que le rapport de la main au smartphone, on le voit bien dans les évolutions de dimension, est fondamental. Sauf que le silex de nos ancêtres, il a permis au cerveau de doubler grâce aux protéines qu'on a pu gagner avec la chasse, quoi. Et notre silex transhumaniste, le smartphone, lui, je suis pas sûr qu'il nous fasse doubler le cerveau.
Parmi les études que vont compulser, les constats que vous tentez de livrer, vous essayez d'expliquer, de comprendre, avec les études qui existent, et ça c'est une question qui m'intéresse, ce que ce smartphone fait ou ferait au cerveau. On a des études qui sont parfois contradictoires, avec des méthodologies tout à fait différentes. Peut-être une question préliminaire, vous avez cherché comment, et est-ce que vous avez l'impression, peut-être comme moi, qu'en termes d'études, on est quand même un petit peu en retard?
On est en retard et c'est un peu une des raisons de ce livre. C'est que je voulais faire un bilan de l'état des connaissances aujourd'hui et surtout, si vous voulez, de la situation à mi-gay, quoi, au milieu du gay, puisqu'au fond, le succès est considérable après 10 ans, mais on ne fait qu'entrer dans une nouvelle phase qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui nous attend? C'est très difficile à dire, mais ce qui est... Au fond, la quasi-totalité, quand même, des enquêtes, des recherches, des évaluations donnent des résultats inquiétants en termes d'attention, de pulvérisation de l'attention et de désapprentissage. C'est quand même un outil qui sert à désapprendre énormément.
Alors ça, on va y revenir.
Il a effectivement des atouts extraordinaires, il nous donne de super pouvoirs, et son succès est là, évidemment. Des logiciels comme des applications comme Waze, du jour au lendemain, vous permettent de vous guider, de faire le taxi parfait n'importe où. Mais seulement, est-ce qu'on saura encore lire une carte dans 2 ans, quoi? Une carte routière? Pas sûr.
Alors, c'est ce que vous dites, c'est que concrètement, il y a plusieurs effets de ce smartphone sur ce cerveau, pour le coup, qu'on connaît un petit peu grâce à des études. C'est qu'effectivement, on délègue à cet appareil toute une série de capacités, notamment celle de la mémorisation, de la géolocalisation, avec le risque, dites-vous, de créer une dépendance. Il y a aussi une autre question, celle-là on la connaît bien, c'est la question de l'attention, et c'est la question de la dépendance du cerveau à ces shoots de dopamine qu'on reçoit avec les notifications. Qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de ça?
On parle d'une structure addictive qui est produite par l'ancien cerveau, le premier, l'encéphale, qui effectivement, dans ces petits laboratoires de drogue, et a un système de la récompense qui est activé par cette situation très particulière que nous donne le smartphone, qui est l'attente, la surprise, le désir de nouveau, les possibles, quoi. C'est un outil entièrement ouvert sur la totalité de notre champ, donc sur la totalité des possibles qui peuvent nous advenir. Et c'est pour ça qu'on lâche pas son smartphone, qu'on le prend même si on va au bout du jardin, parce que il peut se passer justement un truc, là, entre les moments où vous l'avez laissé et puis le moment où vous le retrouvez. Et alors, cette situation-là, elle a quand même tout de l'âme malheureuse de Hegel, vous voyez, de ce côté adolescent, où on s'ouvre à tous les possibles, mais en même temps où on est presque incapable de choisir, quoi. Il y a quelque chose dans cet outil.
C'est une métaphore que vous utilisez
Il nous transforme tous en papillons, quoi. On butine, on va. Comme Hegel parlait de l'adolescent qui, à force de vouloir conserver sa liberté d'être tout et tout à la fois et partout, ne se pose nulle part, jamais.
Vous savez, il y a eu des études assez intéressantes où vous montrez que l'attention et la qualité de concentration est proportionnellement catastrophique. Plus votre portable est près, plus vous êtes peu concentré, plus il est loin et inaccessible, meilleure est la qualité de votre concentration.
20% d'efficacité au travail en plus si le smartphone est
inaccessible. Donc si on n'envisage même pas qu'ils puissent interagir avec nous, il y a cette question donc de déléguer les savoirs, mais il va y avoir aussi des gens qui vont considérer que déléguer ces questions de mémoire, de stockage, ces questions de géolocalisation permet de se concentrer sur une intelligence et une concentration plus créative. En gros, on délègue des choses qui aujourd'hui nous prenaient beaucoup de temps et d'énergie, se rappeler des numéros de téléphone, se rappeler comment calculer, lire une carte, pour dégager un temps qualitatif.
Oui, ouais,
qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah ça c'est la version idéale quoi, c'est les gens qui ont les moyens d'avoir du créatif dans leur vie aussi, hein, ce qui est un peu un problème social et un problème à penser en termes de hiérarchie, ce qui est pas donné à tout le monde. Et la règle générale, c'est que le temps que vous avez gagné en vous déchargeant de ces tâches, et ben vous le consacrez à du jeu sur votre smartphone. C'est-à-dire que ce que vous avez gagné, vous le réinvestissez directement dans une activité absolument non productive et qu'on pourrait, à certains égards, considérer comme crétine.
Comme crétine, mais vous ouvrez votre livre. D'ailleurs, votre livre s'ouvre sur une citation de Pascal. Vous dites aussi que le smartphone, c'est l'instrument du divertissement au sens pascalien du terme. Et que c'est en ça, peut-être d'ailleurs, qu'il connaît le succès qu'il connaît. Donc, on l'a entendu, vous êtes quand même plutôt pessimiste. Vous envisagez même la possibilité, entre l'arrivée de l'intelligence artificielle et la miniaturisation du portable, la possibilité d'un portable qui aurait migré à l'intérieur même de notre corps. Hypothèse qui serait envisagée comme positive par une partie des 15-25 ans.
Oui. Ah oui, très nettement. Il considère que c'est même logique, c'est normal, c'est sûrement comme ça que ça se passera, parce que c'est une bonne façon de pas risquer de perdre son smartphone, hein, ça c'est sûr. Et puis il est tellement proche quoi, de, vous savez, quand vous déverrouillez 200 fois par jour et que vous passez quand vous pouvez pendant le week-end entre 8 et 10 heures par jour à votre écran, il y a quelque chose comme une relation qui est plus que prothétique. C'est plus une prothèse, c'est véritablement quelque chose qui vous appartient, qui est biologique, qui est dans le corps. Donc, ça pourrait migrer sous la peau. On déclarera peut-être un écran sur l'avant-bras. Et ça sera formidable comme ça, quoi.
Bon, on entend une forme d'ironie et de pessimisme. Je termine avec une dernière question. Vous dites, le smartphone est un pharmacone. C'est à la fois le poison et son remède. Qu'est-ce que vous préconisez, justement, pour que ne tombe pas dans les pièges, et notamment des pièges qui pourraient, et ça c'est votre avis et ceux de certains chercheurs, avoir des conséquences concrètes sur le fonctionnement même de notre cerveau, on l'a dit. Qu'est-ce que vous préconisez?
Je préconise que l'école s'en empare.
On parle d'un poison et d'un remède.
Que l'école s'en empare et que le smartphone puisse donner lieu à des applications qui soient, même s'il faut interdire le smartphone, on est d'accord pendant les cours, il doit aussi faire l'objet d'une éducation. Vous voyez, je crois que c'est la chose qui manque dans cette affaire. Et le smartphone peut être l'espace par lequel des bibliothèques entières deviennent accessibles à des enfants, par lesquels on les voit lire le journal en ayant les yeux qui piquent le soir en disant « Oh là là !» Bon, mais on adapte la chose au format smartphone, on le fait bien, et on fait de cet outil, en enseignant en même temps un peu de détox par rapport à son usage addictif, tout ce qu'il faut pour en faire un outil de culture, de savoir et de développement.
Mais donc, du coup, il y a quand même une vraie nécessité d'apprendre la détox. C'est ça que vous dites.
Ah oui, c'est sûr. Et puis, il y a aussi un autre souci, c'est celui quand même de la surveillance capitaliste qui est derrière, hein, de ce régime de surveillance, de propagande, un petit peu.
De fake news, on l'a vu d'ailleurs avec l'élection de Trump et l'élection de Jair Bolsonaro. On en parlait dans ce
soir. Oui, donc là, le subliminal, il faut quand même le surveiller de très près, hein.
Merci beaucoup Pierre-Marc de Biasi que nous avons reçu. Vous étiez là ce soir pour votre livre Le Troisième Cerveau. Je rappelle que selon vous, il y a notre cerveau, il y a le deuxième cerveau que l'on connaît qui est l'intestin et le smartphone pourrait devenir notre troisième cerveau. Merci d'avoir été avec nous.
Le temps de vous recommander un article, un petit clin d'œil numérique comme chaque semaine. Station F, gare à la Frime. Cet article signé Léa Lejeune est paru fin octobre dans Challenge et décrit de l'intérieur les problèmes du projet de pépinière de start-up, le plus grand incubateur d'Europe tel qu'imaginé par Xavier Niel. Derrière la success story, Léa Lejeune raconte les difficultés, peut-être certaines impasses d'un projet ambitieux, sinon parfois un peu mégalomane. L'article est brillant parce qu'il n'est pas à charge, il n'annonce pas un arrêt de mort, seulement un modèle à corriger. Mieux vaut le prendre comme une mise en garde que de le dénoncer avant qu'il ne soit trop tard. Léa Lejeune, Station F, Gare à la Frime, Challenge, octobre 2018.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h12 en direct, le Club de la Presse Numérique. On parle ce soir de Fortnite. Fortnite, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est pas grave. Je ne le savais pas moi-même il y a quelques jours. C'est un jeu vidéo qui séduit des millions de gamins. Ça fait rire tout le monde dans le studio. Il rit, mais il ne savait pas non plus ce que c'était il y a quelques temps. Bref, c'est gratuit. Interrogez vos enfants ou vos petits-enfants. Ils connaissent Fortnite. On va donc décrypter ce succès qui permet de comprendre également certaines évolutions du jeu vidéo et ses nouveaux modèles économiques. Et nous sommes pour en parler avec Nicolas Princen, ancien conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy et fondateur de la start-up Gloz, et Emmanuel Paquette de L'Express. Nicolas Princen, Fortnite, il s'est passé quelque chose.
Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans les smartphones d'énormément d'adolescents et donc dans énormément de familles au mois de février-mars de l'an dernier. De cette année d'ailleurs, pardon, 2018, c'est l'arrivée d'une application sur les smartphones qui s'appelle Fortnite et qui reprend sous format d'application mobile un jeu vidéo qui avait commencé déjà à exploser en termes d'audience et de revenus 8 mois plus tôt sur les consoles de jeux. Et ce que ça a signifié, c'est l'arrivée du premier jeu qui en vérité est 100% cross-platform, comme on dit, c'est-à-dire qu'il existe dans les trois univers du jeu vidéo que sont le PC et l'ordinateur, les consoles de jeux et les smartphones. Et c'est le même jeu sur les trois. C'est un jeu de shoot'em up où on choisit un personnage qu'on habille et qui va sur un territoire confronté 100 autres personnes, donc 100 personnes, comme dans le film Battle Royale. Et il a pour charge d'éliminer ces autres personnes avec des armes qu'il ramasse sur le sol dans un décor assez joli et assez punk rock.
Alors Fortnite, c'est un jeu vidéo donc qui compterait aujourd'hui 150 millions de joueurs dans le monde et générerait déjà des revenus supérieurs à 200 millions de dollars par mois. Il explose, vous l'avez dit, depuis quelques mois avec la sortie de son mode Battle Royale. C'est un mode de jeu où vous incarnez un personnage, vous l'avez dit, qui doit être le dernier survivant d'un champ de bataille dont la taille se réduit au fur et à mesure que la partie avance, que le nombre de joueurs sur le terrain donc diminue, passant de 100 à finalement 1 en une quinzaine de minutes. Emmanuel Paquette, phénomène, quels sont les ressorts du succès de ce jeu ?
L'un des premiers, c'est que déjà, c'est un jeu qui est gratuit, ce qu'on appelle un jeu free-to-play, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'installer, jouer gratuitement, et on n'a aucune somme d'argent à dépenser, si ce n'est, si à un moment donné, on veut personnaliser son personnage, lui acheter des vêtements, ce qu'on appelle des skins, par exemple, faire changer de visage.
À ce moment-là, c'est le modèle économique. Hein.
Voilà, on dépense des euros pour acheter ce qu'on appelle une monnaie virtuelle qui s'appelle le V-Bucks. Et avec le V-Bucks, eh ben, on peut s'acheter différents éléments à l'intérieur du jeu. Alors ça, effectivement, ça peut se faire qu'avec l'aide d'un parent qui est d'accord pour donner son numéro de carte bancaire, évidemment. Je connais par exemple un petit Elliot de 12 ans qui a tanné son père pour pouvoir essayer d'acheter des éléments du jeu, mais après ça demande effectivement beaucoup d'heures d'entraînement pour pas se faire tuer au bout de quelques secondes, parce que l'autre élément de ce jeu qui est un petit peu disons addictif, c'est que même quand on est tué très rapidement, ce qui a été mon cas, j'ai pas survécu très longtemps, le tueur, on voit à travers les yeux de la personne qui vous a tué,
on devient un peu ce tueur, en fait.
Voilà, on devient ce tueur, on voit le reste de sa quête en fonction des autres.
Et quand il est tué lui-même,
ça remonte au tueur qui vient de l'annihiler, le shooter, et puis on peut continuer de vivre jusqu'à la fin de la quête au travers des yeux des différents tueurs.
Nicolas Princen.
Ce qui est intéressant, c'est que, alors je veux pas faire trop peur à notre audience, c'est pas un jeu d'une extraordinaire violence, c'est plutôt très ludique,
on
avec un univers
gentiment.
Très coloré. Oui, c'est ça, on se fait tuer gentiment par rapport à d'autres jeux. Il est assez clair, il est assez festif quand on tue quelqu'un.
C'est des images pas réalistes pour le coup.
Pas du
donc
tout,
du coup,
non,
plus,
pas du tout réaliste.
Soft,
je pense que là n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt qu'il est extrêmement addictif et que les jeunes y jouent énormément. Il faut savoir qu'il y a plus de 37% des joueurs de Fortnite qui disent jouer plus de 10 heures par semaine. C'est-à-dire
et en ce moment-là, au moment où on se parle, il y a 400 000 personnes qui jouent. 400 000.
Absolument. Ouais. Mais ce qui est intéressant, ce que disait Emmanuel également, c'est que représenter est aussi important que jouer. C'est-à-dire que quand les jeunes jouent à Fortnite, ils se regardent énormément les uns les autres. Ce qu'ils achètent, ce sont des vêtements, ce sont aussi des danses qui permettent à leurs personnages de faire des danses au milieu du jeu comme ça et de se montrer rigolo auprès des autres, éventuellement les divertir. Et puis, en effet, quand on a tué un concurrent, on prend sa place, on prend sa vue. Et finalement, il y a tout un univers qui s'est construit autour du Fortnite qui va bien au-delà du jeu, qui ressemble plutôt à un univers de sport ou de médias qui génèrent une extraordinaire audience sur des plateformes tierces comme Twitch, la plateforme de vidéo de ceux qui jouent aux jeux vidéo. Et puis YouTube, évidemment, où énormément de parties de Fortnite sont diffusées, puisque les jeunes s'enregistrent jouant à Fortnite, et ensuite diffusent leurs performances sur YouTube, ce qui génère d'ailleurs des phénomènes de starisation incroyables. Le numéro 1 mondial, ou celui qui est considéré comme le plus spectaculaire, Ninja s'appelle-t-il, est un jeune homme de 27 ans de la banlieue de Chicago. Ninja gagne des centaines de milliers de dollars tous les mois, parce qu'il est suivi par des centaines de milliers de personnes à chaque fois qu'il allume son jeu, sachant qu'il le fait entre 2 et 3 heures par jour.
En France, on a Gotage, hein, qui est le premier dans la catégorie, Emmanuel Paquette.
Oui, parce que c'est vrai que ce que dit Nicolas est assez juste, c'est que ça devient en fait une forme de réseau social aussi en tant que tel, puisqu'on voit que les joueurs apprennent d'autres joueurs et surtout peuvent collaborer entre eux pour essayer d'aboutir à la quête sans se faire tuer. Donc on voit beaucoup de collaboration avec des micros entre des groupes de joueurs qui se rencontrent. Il y a d'ailleurs une petite étude sur le fait réalisée par l'université de Stanford qui dit « Parents, ne vous inquiétez pas, le jeu peut apporter certains éléments importants à vos enfants, notamment collaborer pour atteindre un but. » Et ça peut servir après dans les études d'un enfant.
Mais vous qui êtes père, vous y croyez?
Pas du tout, mais j'ai lu l'étude de Stanford.
Si.
Et non, mais je pense qu'effectivement, dans l'esprit collaboratif, où chacun on assigne une tâche particulière, puisque on n'est pas obligé que de tuer hein, dans Fortnite, on peut aussi construire.
Des maisons,
certains sont spécialisés, voilà, pour après tuer effectivement. Mais donc certains sont plutôt des constructeurs, d'autres plutôt des tueurs. Donc chacun peut avoir des rôles qui lui sont assignés pour collaborer et être le plus efficace dans le jeu.
Nicolas Prinsen.
Oui, je crois que la raison pour laquelle on parle de Fortnite ce soir, c'est que ça n'est pas qu'un jeu. Et je veux bien que les gens comprennent, qui nous écoutent, qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de réaliser Fortnite, qui était totalement inattendu. C'est que premièrement, en effet, comme disait Emmanuel, Fortnite est en train de devenir le réseau social des jeunes, notamment garçons. C'est-à-dire qu'ils passent infiniment plus de temps là-dessus que sur les autres plateformes sociales comme Instagram ou Snapchat ou Facebook. Mais surtout, ils ont une interaction ou une façon de jouer extraordinairement sociale. En effet, ils sont connectés avec des micros et des oreillettes. Ils se parlent, ils jouent, ils s'amusent énormément. Moi, personnellement, quand j'entends mon beau-fils qui joue, j'ai plutôt l'impression qu'il s'amuse. C'est pas très violent, c'est très ludique. Il rigole tout le temps, en gros. Et finalement, ça devient le réseau social, la plateforme d'interaction. Non seulement des amis qu'on connaît, mais aussi on découvre de nouvelles personnes sur Fortnite. Moi, je connais un garçon de 13 ans, celui-là, qui, depuis 4 ans, joue avec un ami à lui. Ils sont super copains. Ils se sont jamais rencontrés dans la vie. Pourtant, il me le cite comme un de ses meilleurs copains. Et puis, la deuxième promesse totalement inattendue que réalise ce jeu, c'est celle de la fusion entre le monde virtuel et le monde réel. C'est-à-dire que là où on s'attendait à ce que ce soit des plateformes comme Second Life il y a 10 ans, ou même Pokémon Go, qui réalise l'espèce de fusion entre monde réel et monde virtuel, bah quand on voit la réalité de la vie d'un adolescent aujourd'hui, son monde virtuel, c'est Fortnite, c'est son existence en tant que personnage sur Fortnite, et ça se traduit directement dans le monde réel, puisqu'il y trouve des vrais amis qu'il considère comme des vrais amis, même quand il ne les a pas rencontrés.
Emmanuel Paquette.
Oui, effectivement, c'est ce qui fait la puissance du jeu et sa valorisation aussi, de fait, puisque, comme vous le disiez, Frédéric, les chiffres qui circulent disent que ce seul jeu, aujourd'hui, a fait plus d'un milliard de chiffres d'affaires. On est plutôt sur 200, effectivement, à 300 millions de dollars chaque
mois. On dit
mois.
Même que l'action de groupe Activision, qui édite Call of Duty, ou Take-Two, l'éditeur de Grand Theft Auto, sont affectés par ce succès des free-to-play.
Alors, je pense plus aujourd'hui, parce que notamment Take-Two vient de sortir un énorme jeu qui se vend très très bien actuellement, qui s'appelle Red Dead Redemption numéro 2, enfin le deuxième volet, qui était très attendu. Donc de ce point de vue-là, non, je suis pas certain que ça affecte directement le business de ces grands éditeurs. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le principal intérêt pour un acteur chinois comme Tencent, qui est un mastodonte dans les jeux vidéo et qui a pris 40% de l'éditeur Epic Games qui a créé Fortnite, c'est de créer un jeu qui, si possible, ne meurt jamais, puisqu'à chaque fois on répète une partie. Parce qu'aujourd'hui, le problème des jeux free-to-play, c'est que au bout d'un moment, les gens se lassent et le quittent. Et à ce moment-là, on a acheté un jeu on est devenu actionnaire d'un jeu qui avait à un moment donné un espèce de pic d'audience, et le pic d'audience s'affaisse. Là, avec le système de collaboration et de réseau social, le fait est que ce jeu-là peut avoir une existence très très longue, puisqu'on y retrouve ses amis. Donc il y a un effet en fait de réseau qui fait que c'est un jeu dont la pérennité peut être bien plus importante que les autres.
Nicolas Prinsen.
Oui, c'est vrai, parce que les jeux vidéo sont le terrain d'une grande bataille entre deux générations d'éditeurs. La première génération d'éditeurs sont ceux qui ont fait des jeux pour les PC et pour les consoles de jeux. C'était des jeux longs, très engageants,
qui racontent des vraies histoires, payant,
tout à fait.
Très très cher.
Très cher, qui coûte 60, 70 euros. Et puis, qui ressemble plus à l'industrie du cinéma, où on va travailler 3 ans pour faire un jeu.
Un blockbuster aussi, ouais.
Et puis une deuxième génération d'éditeurs qui sont arrivés grâce à l'avènement du smartphone, qui sont des éditeurs qui faisaient plus du casual gaming, des jeux auxquels on va jouer un petit peu. Les rois de ça, c'est Candy Crush, typiquement, auquel tout le monde a un petit peu joué. Vraiment le jeu pour jouer 5, 10, 15 minutes par jour dans le métro. Et cette bataille entre ces deux générations d'éditeurs, je trouve que Fortnite la résout en quelque sorte, parce que Epic est un petit peu à l'intersection des deux. C'est un gros éditeur qui a déjà fait des gros jeux, mais qui a trouvé un moyen d'exister sur les smartphones, de faire un jeu qui, pour les très bons joueurs, une partie ça va durer une demi-heure, mais pour un débutant ça va durer 5 minutes. Il aurait eu un coup d'adrénaline incroyable à se faire tuer ou à réussir à tuer, et ça marie extrêmement bien ces deux générations de jeux et de joueurs.
Emmanuel Paquette, c'est aussi un moyen de contourner la distribution de Android et faire d'une certaine manière un pied de nez à Google, la manière dont il est distribué le jeu.
Oui, alors parce que faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand une application est distribuée via un App Store, que ça soit l'Android Store de Google ou l'App Store d'Apple, après toutes les transactions qui sont faites à l'intérieur du jeu, bah, une commission est prélevée par Google.
30%, ouais.
Voilà, et l'autre par Apple. Donc l'idée de Fortnite, c'était de dire, bah, nous, on va arrêter de payer des commissions.
Donc l'application n'est pas disponible sur Google Play,
c'est ça ? Voilà, c'est ça, et on va la distribuer, nous, en direct, puisqu'on a une marque qui est suffisamment forte, et les gens connaissent suffisamment le jeu pour aller directement le télécharger sans passer par un store. Alors c'est un pari risqué, parce que ça veut dire qu'on considère que le nom du jeu est tellement puissant qu'on n'a plus besoin, on peut se passer des boutiques de distribution, mais visiblement c'est aussi plutôt payant.
C'est 100% des recettes, voilà, qui arrivent aux développeurs.
Alors, en revanche, ça pose un deuxième problème qui est les fausses applications Fortnite.
Donc des arnaques.
Des arnaques, voilà, qui peuvent être installées parce qu'aujourd'hui, c'est contrôlé, en tout cas chez Apple, un peu moins chez Google. Mais une application pour être distribuée sur les boutiques en ligne doit passer en fait par
les tests,
une batterie
validés,
test,
ouais.
Exactement. Et il peut y avoir des faux jeux qui viennent simplement pomper vos données personnelles sur votre téléphone avec une fausse application Fortnite, par exemple, sur Android.
Nicolas Prinsen.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire qu'une application, c'est-à-dire une application quelle qu'elle soit ici, un jeu, soit suffisamment forte en tant que marque pour dire bah, finalement on va court-circuiter Google et on ne va pas se distribuer directement sur Android. C'est tout à fait extraordinaire et je pense que ça en dit beaucoup sur où se situe la valeur aujourd'hui dans l'économie numérique auprès de cette nouvelle génération, c'est-à-dire vraiment les adolescents d'aujourd'hui. Donc l'adolescent d'aujourd'hui, visiblement, Fortnite prouve que Fortnite est plus fort qu'un Google, premièrement. Et deuxièmement, comme vous citiez au départ le modèle économique de Fortnite, un adolescent aujourd'hui va vous demander votre carte bancaire pour acheter, attention, un vêtement virtuel pour son personnage virtuel ou une danse, enseigner une danse à un de ses personnages pour exister sur cette plateforme sociale qu'est Fortnite.
Faire le cacou, comme on dit dans le midi.
Absolument, hein. C'est ça. Et donc, à Noël, plutôt que vous demander un objet physique, il va vous demander ça. Et je trouve ça absolument remarquable. Il y a une grande marque de téléphonie, Samsung, pour ne pas la nommer, qui a lancé une campagne où elle offrait aux joueurs de Fortnite une skin, c'est-à-dire un vêtement spécifique, spécifique dans Fortnite pour l'achat du nouveau Samsung dont le prix était autour de 1000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, il y a des hordes d'adolescents qui ont absolument tout fait pour essayer de pirater le système, parce que leurs parents ne sont pas prêts à leur payer un Samsung à 1000 euros, pour essayer de pirater le système. Et donc, des tonnes de vidéos sur YouTube qui expliquent comment pirater le système. Des adolescents qui vont dans les boutiques de téléphonie mobile pour essayer de pirater le système et d'obtenir la skin. Donc, la skin a plus de valeur que le smartphone. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un retournement assez intéressant qu'on voit avec Fortnite.
Vous comprenez quelque chose
à
ce qu'on disait ?
Je comprends tout à fait, parce que évidemment, j'ai des petits-neveux, moi, et je vois très bien à quoi ça correspond. Mais
chacun parle de ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-neveux. Il
n'y
a que le technicien de cette émission qui joue à Fortnite, j'ai l'impression, vu que lui, il comprend ce qu'on dit.
Mais vous pointez quand même quelque chose qui est assez intéressant, et vous l'avez dit, si Samsung en vient à utiliser ce type d'argumentaire, on est peut-être arrivé aussi à un nouveau paradigme. Est-ce que Fortnite ne pourrait pas être le signe d'un nouveau paradigme où finalement, on parle de ces géants qui manipulent du contenu, avec un exemple de contenu qui commence à dépasser le géant, à savoir Google. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard qu'on ait comme ça des marques qui soient presque plus fortes que les tuyaux, ce qui pour le moment n'est pas vraiment le cas ?
Nicolas Prinsen, cette question.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, Fortnite reste totalement dépendant des des appareils qui le distribuent et avec lesquels il est joué. Mais c'est très fort d'être sur tous les appareils puisque ça ne les rend pas dépendants d'une seule d'entre elles. En revanche, ça crée un monde. Et ce monde, il est relativement fermé. Pour y accéder, bah, vous voyez, nous, on n'en fait pas partie autour de cette table nécessairement.
Pas on est marginaux.
Mais il se passe toute une vie là-dedans.
Et ce soir, ce sera réglé.
Sur laquelle les grandes plateformes n'ont pas beaucoup de pouvoir. Reste à voir si ça va durer dans le temps, ce qui est la grande problématique des jeux vidéo. C'est pas du tout sûr que ça va durer. Mais ça me paraît intéressant de voir une tentative qui, est pour le coup vraiment inattendue. C'est-à-dire, c'était pas leur but premier que d'être une plateforme sociale, ça l'est devenu.
Emmanuel Paquette, pour terminer.
Juste pour rappeler quelque chose qui peut parler aux gens, c'est il y a très longtemps, Coca-Cola a voulu sortir des Leclerc pour essayer de se distribuer en direct. Très vite, Coca-Cola a dû revenir dans les Leclerc parce que les volumes n'arrivaient pas à être à s'écouler. Alors, on verra si Fortnite arrive à bypasser longtemps comme ça, effectivement,
faire ce que Coca n'a pas su faire.
Exactement.
Z-Event le week-end prochain des 9 et 11 novembre, 38 streamers, 50 heures de live, ce sera un événement. L'an passé c'était la première édition, plus de 450 000 euros avaient été levés, notamment pour des causes, en l'occurrence pour Médecins Sans Frontières. C'est une information liée à ces jeux vidéo. On en reste là pour ce soir, merci infiniment à tous les deux, Emmanuel Paquette de L'Express, Nicolas Prinsen, fondateur de la start-up Glows. On se quitte avec le nouvel album de Black Eyed Peas et dont on a parlé en début d'émission, Vibration, c'est le titre sur France Culture. Dimanche prochain, je recevrai le philosophe nord-américain Anthony Appia après les élections mid-term aux États-Unis. Et puis encore un mot pour vous dire que ce soir, après Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier, à 21h, ne manquez pas sur France Culture du théâtre avec le drame Torquemada de Victor Hugo. Une création originale en clôture de notre week-end spécial Victor Hugo, notre contemporain, en partenariat avec France 2 et France 5. Ce soir également, à 22h35 sur France 5, le documentaire Victor Hugo, un siècle en révolution. Et puis lundi et mardi sur France 2, 4 épisodes d'une mini-série sur Victor Hugo, également Victor Hugo, ennemi d'État. Voilà, vous savez tout. Pour les Hugoliens qui sont nombreux en France et à France Culture, c'est à nous ça, Hugo, hein, on peut pas nous l'enlever. Partageons-le, mais juste un petit peu. Victor Hugo, notre contemporain, je dirais, capital. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.